La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. Il y a un an, des djihadistes semaient la terreur à Paris. 130 personnes sont décédées juste parce qu'elles buvaient un verre à la terrasse d'un café ou qu'elles assistaient à un concert au Bataclan. Un acte qui nous a laissé sans voix, abasourdis, en colère. Un auteur a pris sa plume dès le lendemain des attentats. Son objectif, tenter d'expliquer ce qu'est le terrorisme aux enfants, mais aussi à nous tous, leurs parents. Cet auteur, c'est Tahar Ben Jelloun. Romancier, poète, peintre, écrivain, il a reçu le prix Goncourt en 1987 pour La Nuit Sacrée. Depuis, il s'est fait connaître pour ses dialogues fictifs avec sa fille, sur le racisme d'abord, sur l'islam aussi. Cette fois, il se penche donc sur le terrorisme dans son livre « Le terrorisme expliqué à nos enfants » publié aux éditions du Seuil. Nous sommes allés le rencontrer chez lui, à Paris. Tahar Ben Jelloun, bonjour et merci de nous recevoir chez vous.
Merci à vous d'être venu.
Alors, on est ici parce que vous venez de publier un nouvel ouvrage, Le terrorisme expliqué à nos enfants. Alors, c'est la troisième fois en fait que vous partez sur ce canevas de dialogue fictif, on va dire, entre vous et votre fille, après le racisme expliqué à ma fille, qui était paru en 1998, après aussi l'islam expliqué aux enfants en 2002, donc après les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Alors, première question, après avoir écouté tout ça, comment va votre fille ?
Non, ma fille va très bien. C'est virtuel parce que ma fille a grandi maintenant, mais c'était d'un point de vue pédagogique un repère pour que je puisse expliquer à tous les enfants. À l'époque de son âge, elle avait 10 ans à l'époque où j'avais fait l'explication du racisme. Mais après, bon, j'ai appliqué cette même pédagogie, cette technique pour essayer d'être le plus proche possible de la mentalité d'un enfant ou d'un adolescent pour lui expliquer des choses compliquées. Et notamment, le terrorisme a donné beaucoup de mal. Il était difficile à expliquer parce qu'il fallait faire très attention. Expliquer ne veut pas dire justifier, évidemment. Expliquer, c'est démonter un petit peu le mécanisme et donner des éléments de réflexion, des compréhensions pour des jeunes qui ne sont pas forcément formés en histoire, qui ne connaissent pas l'histoire de la société, et qu'ils ont découvert, il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui ont découvert cette brutalité d'une manière tellement inattendue que ça leur est tombé dessus comme un malheur totalement inattendu. Donc il fallait leur donner des éléments de compréhension et surtout donner aux parents aussi des éléments pour qu'ils puissent parler à leurs enfants. Alors j'ai commencé l'écriture de ce livre pratiquement le lendemain du 13 novembre, quand j'ai vu tous ces jeunes massacrés et toutes ces familles endeuillées. Je me dis, oh là là, comment expliquer à un petit frère qui a perdu sa sœur ou au contraire, comment leur expliquer ce qui s'est passé? C'est très difficile. Je me suis mis un peu dans la peau de ces familles frappées par le malheur, essayer d'aller un peu de raconter l'histoire du terrorisme, parce que c'est pas nouveau, c'est pas forcément lié à la religion musulmane, mais c'est lié aussi à des tensions, à des moments d'histoire de l'humanité.
Alors, vous dites qu'il faut mettre des mots sur les choses, il faut expliquer aux enfants. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas le rôle aussi des parents d'épargner les enfants et de peut-être ne pas leur montrer tout de suite les facettes les plus sombres de notre société actuelle?
Ça, c'est une erreur, à mon avis. Hein, c'est un point de vue. Moi, je pense que les enfants, surtout aujourd'hui, quand je dis enfants, je parle des adolescents, 10, 12 ans, 13 ans, ils sont au courant de beaucoup de choses. Vous savez, Internet, c'est une fenêtre ouverte sur tout. Donc, ils sont au courant. Alors, il vaut mieux que les parents leur disent la vérité, les préparent à une chose très simple, c'est que la vie n'est pas quelque chose de tout le temps merveilleux, qu'il y a des malheurs, qu'il y a des accidents, qu'il y a du terrorisme justement, de la violence. Et en les préparant, peut-être qu'ils vont mieux comprendre ce qui va se passer. Mais il faut pas leur mentir, il faut pas leur... Les épargner, c'est une fausse attitude parce que ils vont apprendre des choses. Soit par la télé, soit par la radio, soit par l'internet, soit par les copains. Donc il vaut mieux qu'on leur dise avant, voilà ce qui s'est passé, voilà d'où ça vient, voilà pourquoi, etc. Et les mettre un petit peu à l'abri aussi. Parfois, ils sont naïfs, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Ils peuvent évidemment tomber dans des pièges.
Alors, vous le disiez, vous avez écrit ce livre au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, donc à Paris. Vous avez écrit ce livre, on voit que vous avez peint aussi une toile sur cette question du 13 novembre, sur ce qui s'est passé le 13 novembre. Est-ce que c'était pour vous une nécessité de vous exprimer à ce moment-là?
Bien sûr qu'il faut s'exprimer, bien sûr. Moi, c'est peut-être naïf de ma part, mais je pense que parler, dire, écrire, c'est une façon d'épargner justement le malheur. On peut pas se taire, parce que si on ne dit rien, si on ne s'exprime pas, si on laisse pas sa colère s'exprimer, après on se dit bon ben ils ont gagné. Il faut pas qu'ils gagnent, ces gens-là. Donc je sais que les mots, hélas et malheureusement, ne vont pas tellement changer les choses. Hein. Il faut plus que des mots. Mais l'intellectuel, l'écrivain, qu'est-ce qu'il a? Le peintre, l'artiste, il a quoi? Il a des éléments des très, très, très anodins. Prendre une peinture, faire... Mais en même temps, il faut le faire.
Oui, c'est une façon d'exprimer vraiment votre colère.
Il faut le faire parce que, par exemple, là, pour revenir au terrorisme, quand il y a eu les attentats à Bruxelles, enfin, à l'aéroport et puis le métro, et la première chose qu'on entendait dans les informations, c'est on parlait, ils sont tous originaires de Moelbeek, et que là-bas il y a beaucoup de jeunes d'origine marocaine. Alors c'était le Maroc qui était un petit peu mis en avant, et alors j'ai intervenu, j'ai dit bon très bien, bien sûr, mais c'est des Belges, ce sont des Belges. Peut-être pour certains nés au Maroc, d'autres nés sur place en Belgique. Mais pourquoi ces jeunes ont épousé le malheur et ils l'ont éparpillé, ils l'ont donné aux autres? Pourquoi? Il y a quelque chose, il faut réfléchir à ça. Pourquoi tout d'un coup des jeunes gens, au lieu d'aller travailler ou au lieu d'aller, je sais pas moi, enseigner la paix, ou on choisit de donner la mort aux autres, la violence, la brutalité, la haine, le sang, la mort d'eux-mêmes aussi, parce qu'ils se sont sacrifiés, enfin sacrifiés entre guillemets, parce que pourquoi? C'est quelque chose d'étonnant. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. La même chose pour ce qui se passe ici en France ou dans d'autres pays. Il y a tellement de pays qui sont touchés par le terrorisme aujourd'hui qu'on ne comprend pas.
Et du coup, l'objectif effectivement du livre, c'est aussi d'essayer de comprendre ça. Et vous parliez il y a juste à l'instant des motivations de ces djihadistes, de ces personnes qui se font exploser. Est-ce que en vous penchant sur cette question, vous avez compris certaines de leurs motivations? Alors de nouveau, ça ne permet pas de les justifier, mais est-ce qu'en tout cas vous avez compris pourquoi certains s'étaient fait exploser ou tirer dans la
rue? Évidemment, moi je me dis toujours, j'essaie un petit peu de faire de la psychologie bon marché, j'y dis, je vais mettre à leur place, je vais mettre dans leur tête, qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'étais né ici dans des conditions, etc. Ben non, moi j'aurais pas fait ça parce que... J'ai reçu une éducation. Il y a eu des millions de gens qui passent pas à l'action violente. Il y a quelques-uns. Il y a peut-être en tout une vingtaine d'individus qui font ce malheur. Mais tous les autres, ils sont partis des mêmes conditions et pourtant ils ne versent pas dans le terrorisme. Pourquoi certains versent dans le terrorisme? Et c'est là où l'explication est nécessaire. On revient au problème de l'identité. Est-ce que ces gens ont été structurés? Est-ce qu'ils ont été formés? Est-ce qu'ils ont reçu la culture qu'il fallait qu'ils reçoivent? Est-ce que le pays, leur nouveau, enfin le pays où ils sont nés, qui est leur pays, est-ce qu'il s'est occupé d'un peu ou pas? Est-ce qu'on les a épargnés, protégés? Non. Ils ont été face à la propagande djihadiste qui est redoutablement efficace parce que c'est fait par des techniciens très 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 compétents et très forts. et qui a fini par recruter énormément de jeunes. Donc, il y avait plusieurs facteurs qui se sont retrouvés chez une même personne pour tomber dans ce délire. Parfois, il suffit de peu de choses, pour que... On l'a vu avec la drogue, on l'a vu avec les sectes. Vous vous souvenez, il y a quelques décennies, en Europe, il y avait des sectes qui... Il y avait des gourous qui avaient un tel pouvoir, telle puissance sur des consciences, sur des gens qui abandonnaient tout pour ce gourou. Ben, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Sauf que les sectes ne tuaient pas les autres, ils se tuaient peut-être eux-mêmes. Mais là, nous avons des sectes dont la mission est l'assassinat et la terreur.
En tout cas, une des choses que vous précisez directement dans le livre, c'est que vous refusez de traiter les djihadistes de fous. Contrairement à ce qu'on entend parfois.
C'est une réaction un peu superficielle. Non, un fou, il est irresponsable. Il y a même des fous sympathiques. Non, on ne peut pas. Non, c'est pas la folie.
C'est une façon de les déresponsabiliser, finalement.
Non, il ne faut pas. Non, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Ils sont déterminés, ils sont formés. Ils ont un discours idéologique qui peut vous sortir. Ils ont été extrêmement bien remplis. Hein. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est une affaire sérieuse, bien préparée.
Alors, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, le terrorisme n'est pas né avec l'islam, n'est pas né avec le terrorisme islamiste que l'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous pointez dans le livre une grosse différence entre la résistance et le terrorisme. Alors, la résistance qui justifierait du coup une certaine violence, alors que le terrorisme, c'est la violence non justifiée. Qu'est-ce que vous répondez peut-être à certains djihadistes qui vous diraient que ce qu'ils font, c'est de la résistance ?
Ah non, parce que la résistance, c'est quelque chose de très précis, hein. On résiste lorsque, par exemple, votre pays est occupé, on vous a volé votre maison, on vous humilie quotidiennement. C'est ce qui se passe actuellement, d'ailleurs, dans les territoires palestiniens, où il y a une occupation reconnue par les Nations Unies. Il y a des territoires qui sont occupés, donc il y a une population qui est occupée, et cette population réagit et se résiste contre cette humiliation, contre la violence de l'occupant. Et ça a toujours été partout dans le monde, l'histoire. Aucun pays qui a été occupé ne l'a été tout le temps. C'est pas possible. Un jour ou l'autre, la liberté triomphe sur la colonisation. Mais le djihadiste ne résiste pas. Au contraire, il provoque les autres. Ils attaquent. Ils sont dans une relation de grande violence. Et violence qu'on dit aveugle, ce terme que je n'aime pas, mais disons, il n'y a pas de cible précise. Ils ciblent quoi? Ils ciblent des symboles. Ils ciblent le mode de vie des Européens. Il cible la libération de la femme en Europe. Il cible peut-être le mariage pour tous, tel qu'il a été adopté en Belgique, en Belgique, en Hollande et en France. Donc il cible des modes de vie. Et il cible pas vraiment des personnes, mais malheureusement ce sont des personnes innocentes qui sont les victimes. Quand le type de Nice a pris son camion et il a écrasé 86 personnes, il aurait pu écraser plus. Lui, il faisait pas de distinction. Il faisait d'abord le malheur. Il était en train de tuer des gens qui ne lui ont rien fait. Et ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. Bon. C'est pas de la résistance, ça n'a rien à voir. La résistance, c'est beaucoup plus noble, c'est digne, c'est extraordinaire. Les Français, quand ils étaient occupés par les Allemands, ont résisté. Les Juifs eux-mêmes ont résisté à l'occupation à l'Empire britannique quand la Palestine était sous emprise. Et ils ont commis des attentats à l'époque. Et ils étaient traités de terroristes par les Anglais. Aujourd'hui, ce sont les Israéliens qui traitent les Palestiniens de terroristes. Donc, on est toujours le terroriste de quelqu'un d'autre. Donc, résistance et terrorisme sont deux choses bien différentes. Alors, j'explique bien dans le livre, j'espère que c'est bien expliqué.
Et c'est effectivement très clair et très didactique.
Oui, c'est important, parce qu'il ne faut pas ajouter à la brutalité le mensonge. Dire que, non, les djihadistes ces gens-là ne résistent à rien. Ces gens-là, ils propagent la terreur et la peur et avec l'ignorance en plus pour des raisons qui restent très 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 bizarres, très étranges.
Alors vous parlez de la peur, c'est vraiment une notion centrale, je trouve, dans ce livre, donc le terrorisme, expliqué à nos enfants, parce que vous parlez de la peur de l'islam, de la peur du terrorisme, de la peur que l'on peut vivre chacun quand on se promène dans la rue et de la peur d'un acte terroriste. De votre propre peur même à vous, quand vous étiez enfant dans une école coranique et que vous aviez peur de ne pas connaître toutes les sourates, vraiment cette peur, est-ce que c'est un des moteurs aujourd'hui de notre société actuelle? C'est vraiment une notion centrale.
La peur, d'abord, c'est les enfants. La première chose qu'ils découvrent, c'est la peur. Parce que c'est une insécurité, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, c'est l'obscurité, c'est l'absence de la mère ou du père. La peur, c'est la première réaction de l'individu. Et d'ailleurs, c'est ce que nous partageons avec les animaux. C'est quelque chose que les animaux aussi ont peur. Donc, mais là, c'est une peur qui a été programmée. C'est une peur qui a été installée dans les pays, dans tous les pays du monde, parce que les pays musulmans ne sont pas épargnés. Eux aussi ont eu des victimes du terrorisme en Égypte, bien sûr en Syrie, en Irak, ça c'est hélas, au Maroc, en Tunisie, vous voyez un peu ce qui s'est passé, en Algérie. Donc, cette peur, elle a cette puissance de vouloir embrasser le monde entier et mettre tout le monde dans une situation d'insécurité et de panique. C'est ça ce qu'ils cherchent, ces gens-là. Et effectivement, ils ont réussi au moins à installer cette peur chez les citoyens. Qui parfois oublient, mais ils sont dans la rue, ils ne savent pas si en prenant le métro, ils vont ressortir vivants ou pas, en allant prendre un café, en allant voir un concert de musique ou n'importe quoi. Et c'est ça la force de ces gens-là, c'est qu'ils ont réussi quand même à installer une panique générale et qui touche, je dirais, presque le monde entier. Aujourd'hui, le terrorisme frappe partout en Asie, en Afrique et en Occident.
Cette peur dont Tahar Ben Jelloun nous parle, elle nous touche tous. Mais l'auteur veut rester optimiste. Quand nous lui avons demandé quelle chanson pourrait mettre en musique ses écrits, il a choisi « L'embellie » de Jean Ferrat, une chanson poétique qui lui donne l'espoir d'un avenir meilleur.
Écris quelque chose de joli, des vers peut-être ou de la prose, un instant de rêve et de pause. Dans le tumulte de la vie, écris quelque chose de joli, quelques mots de bleu et de rose, un moment de métamorphose, que tu nommerais l'embellie. Verse un peu de joie dans nos cœurs, avec des riens qui vous délivrent, un peu d'espoir et de douceur. On en a tant besoin pour vivre. Écris quelque chose de joli, l'odeur des lilas et des roses. Chante-nous la beauté des choses dans les yeux de l'homme ébloui. Écris quelque chose de joli, l'aube entre nos bras qui repose, la seconde où lèvres mi-close, le plaisir vient comme la pluie, l'embellie. embellit. Ces mots à peine murmurés dans la tendresse qu'on devine, baignés de musique angevine, le temps sur nous s'est refermé. Je l'aurais voulu si joli, ce poème en bleu et en rose, cet instant de rêve et de pause dans le tumulte de la vie. Je l'aurais voulu si joli, mon amour en qui tout repose, et que nul ne puisse ni n'ose douter que tu es dans ma vie. L'embellie.
Écris quelque chose de joli, des vers peut-être ou de la prose, un instant de rêve et de pause dans le tumulte de la vie. C'est ce que nous dit Jean Ferrat dans cette chanson et c'est ce que tente de faire Tahar Benjelloun dans ses écrits. Vous êtes toujours dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Nous avons le plaisir ce soir de vous diffuser un entretien que Tahar Benjelloun nous a accordé chez lui à Paris il y a quelques jours autour de son dernier livre « Le terrorisme expliqué à nos enfants ». On continue cette rencontre avec lui sur la question de l'amalgame entre islam et terrorisme.
Non, malheureusement, l'amalgame a gagné. Hein. Je ne peux pas tellement en vouloir aux gens qui font l'amalgame parce que c'est la demander de faire un gros effort de compréhension, de culture. Or, quand on n'est pas informé, quand on est dans l'ignorance, on va au plus vite, au plus rapide, et le plus rapide, c'est l'islam. Au lieu de dire, bon, ben, évidemment, les musulmans sont les premières victimes de ce terrorisme, et, bon, ils oublient, mais ils ne veulent pas entendre parler de cette religion qui a... Moi, je reçois pas mal de réactions de gens qui disent, oui, vous dites que ce n'est pas l'islam, mais c'est l'islam, parce que l'islam porte la violence en lui. Ce qui est vrai dans l'islam, c'est que pendant le 7e siècle, au 7e siècle, pendant que le prophète était persécuté par des tribus qui ne croyaient pas en son message et qui voulaient sa mort, donc il devait se défendre. Il y avait de la violence, mais cette violence était inscrite dans un temps précis qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, personne n'attaque l'islam. Je dirais à la limite, ceux qui attaquent l'islam, ce sont les terroristes, parce qu'ils font de l'islam une religion de haine et de violence et de guerre. Alors que rattraper le 7e siècle, le ramener au 21e siècle, c'est une façon qui n'est pas normale, qui n'est pas juste. C'est pas ça. Mais on peut trouver de la violence dans tous les textes religieux. Ça, c'est l'histoire. L'histoire de l'humanité, elle n'est pas faite de gentillesse, elle est faite aussi de violence. Mais on ne peut pas dire que l'islam est une religion de haine et de violence. C'est une religion, au contraire, qui prêche la paix, qui prêche l'entente entre l'humanité. Et il y a des versets très clairs. Ils disent « Celui qui tue un innocent tue toute l'humanité, porte atteinte à toute l'humanité ». Ces versets-là, ils les voient pas, ils les lisent pas. Qu'est-ce qu'ils lisent? C'est uniquement combattre au nom de Dieu les infidèles. Mais à l'époque, les infidèles, c'était des gens qui faisaient de la terreur, qui étaient des terroristes de l'époque, qui voulaient tendre des guet-apens, des pièges, quand le prophète se déplaçait pour le tuer, et tuer ses compagnons, tous ceux qui étaient avec lui. Donc, il y avait un état de guerre en 622, qui ne se justifie pas aujourd'hui.
Vous parlez aussi de laïcité dans le livre, dans ce livre, donc le terrorisme expliqué à nos enfants, et vous expliquez que les musulmans ont parfois du mal à comprendre et à accepter ce concept de laïcité. Pourquoi ?
Laïcité a toujours eu du mal à s'installer déjà en Europe. Le seul pays laïque réellement aujourd'hui, c'est la France. Elle a quand même quelques difficultés avec ça. Dans le monde musulman, disons la Turquie, depuis 1923, a été grâce à Atatürk laïcisée. Malheureusement, aujourd'hui, Erdogan est en train de l'islamiser et je ne sais pas ce qui va se passer, mais la Turquie, la Turquie est menacée d'islamisation. Or, l'islam pourrait tout à fait être vécu dans une paix sociale, dans une paix, dans une sphère privée. Qui ne va porter de désordre chez personne. On peut le faire. Mais ça, c'est une éducation qu'il faut donner aux gens. Alors, apprendre ce que c'est que la laïcité, il faut commencer par l'école aussi. Il faut aller à l'école. Et apprendre à des enfants que la religion est une légitimité, chacun a le droit de croire à ce qu'il veut, mais ça reste une affaire privée. Et ça, il faut l'expliquer aux gens. Et leur dire que la laïcité, c'est pas le contraire de la religion, c'est pas l'opposition à la religion, c'est tout simplement une sorte de séparation pour que le sentiment religieux n'envahisse pas le sentiment public, l'éducation notamment, la morale publique, les relations entre l'État et les citoyens. Il faut pas que ce soit géré par une divinité, mais il faut que ce soit géré par la raison et par des lois qui sont votées par un parlement élu au suffrage universel, ce qu'on appelle la démocratie. Donc c'est tout à fait le meilleur, enfin le moins mauvais système qu'on a trouvé, mais c'est un système qu'il faut absolument sauvegarder. C'est ça ce qu'il faut faire. Et en France aujourd'hui, il y a tout un travail qu'on devrait faire auprès surtout des musulmans, parce que je pense que les chrétiens et les juifs ont compris comment vivre avec la laïcité. Mais les musulmans sont prêts à vivre avec la laïcité. L'écrasante majorité des musulmans en France, et je pense en Belgique c'est la même chose, vivent paisiblement leur islam. Il y a quelques éléments qui mettent un peu de désordre dans la ville, dans la vie, mais ils ne sont pas nombreux. Mais l'écrasante majorité des gens, ils acceptent. Moi, tous ceux que je connais, que ce soit dans ma propre famille ou en dehors, c'est des gens tranquilles. Ils prient, ils font le ramadan, mais ils ne vont pas obliger les autres à le faire.
Alors, on arrive déjà à la fin de cet entretien, mais je voudrais quand même terminer par une note d'espoir. Alors, vous dites dans ce livre que pour vous, il faudrait miser sur l'éducation. C'est ça une des solutions pour vous, pour arriver à s'en sortir?
Bien sûr, il y a l'éducation. Ça, c'est essentiel. Il y a la culture pour les grands. Et il y a la curiosité. Et puis, la lutte contre l'ignorance et les amalgames. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire. Je pense qu'on va réussir petit à petit à arriver à une paix. Mais pour cela, il faut beaucoup de travail, beaucoup de volonté. Il faut de volonté. Et puis, il faut arrêter avec le racisme. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Il n'y a pas de race, les races n'existent pas. Il y a des inégalités naturelles, parfois sociales. Il ne faut pas en faire, il faut pas en faire une des justifications pour mépriser ou humilier les gens. Et je vais finir par une citation de Nietzsche qui disait « Qu'est-ce qu'il y a de pire chez l'homme ?» Et lui dit « C'est d'humilier son semblable. » C'est quelque chose d'insupportable. Moi, personnellement, c'est la chose qui me fait le plus horreur, c'est quand quelqu'un, par le pouvoir ou par la possibilité d'être dans une situation confortable, écrase le plus faible, écrase son être semblable.
Matahar Benjelloun, merci. Merci pour cet entretien. Merci de nous avoir reçus chez vous. Et donc, je le rappelle, votre ouvrage « Le terrorisme expliqué à nos enfants » qui a été publié aux éditions du Seuil. Merci en tout cas et à très bientôt.
Merci à vous. Merci.
Tahar Benjelloun estime donc qu'il faut miser sur l'éducation pour déconstruire les clichés. Son livre est à mettre entre toutes les mains, les vôtres et celles de vos enfants à partir de 10-12 ans. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.
En quête de sens
sur la première.